Vincent Chalais, vous êtes notre invité, vous êtes maître de conférence de l'histoire médiévale à l'Université Paul Valéry et vous vous prêtez à l'exercice du non-livret. Merci.
Ben, merci à vous.
Vous êtes venu pour la Société d'Histoire du Gard donner une conférence et le titre m'avait intrigué. C'était la prise du château d'Éguesse par des Tuchins en 1382. Je me suis dit, ah bon, c'est qui les Tuchins? Pourquoi ce château a été pris? Et on va y venir, je pense qu'on va en parler aujourd'hui.
Oui, tout à fait, oui.
Ce château d'Éguesse appartenait à qui?
C'est effectivement le cœur du problème. Ce château d'Éguesse, à ce moment-là, appartenait à quelqu'un qui s'appelle Ponce Biordon. Alors, ce Ponce Biordon est évidemment totalement inconnu pour vous comme pour la plupart des gens.
Ce nom d'ailleurs, Biordon.
Oui, alors là, je sais pas, j'ai pas fait la recherche particulièrement par rapport au nom de famille, mais en revanche, ce Ponce Biordon, il a une caractéristique très intéressante, c'est que il est contrôleur général de la Gabelle du Sel.
Ah,
il est originaire de Pont-Saint-Esprit et on sait en l'occurrence, parce qu'on a un gros procès qui est mené par ce Ponce Biordon avec beaucoup de témoignages qui ont été recueillis à cette occasion-là, les témoins nous disent que finalement c'est un parvenu, c'est quelqu'un qui s'est enrichi très rapidement parce que les témoins disent mais son père et puis lui-même quand il était plus jeune en fait il vendait des poissons salés sur le marché, il n'avait pas particulièrement d'argent et puis son père est rentré finalement dans la gestion du trafic du sel. Et ce Ponce Biordon, bah, il s'est enrichi en fait sur le trafic du sel, sur la perception de la gabelle du sel. Et en 1377, il devient seigneur d'Éguesse et il bénéficie d'une lettre d'anoblissement par le roi. Donc c'est un parvenu. Et l'essentiel de la population dans ce coin-là, hein, que ce soit à Pont-Saint-Esprit même, à Bagnols-sur-Cèze ou dans les villages environnants, le considère comme quelqu'un qui s'est enrichi en fait sur les impôts et sur la perception des impôts.
C'est lui qui a fait construire le château?
Alors non, le château existait. Hein. Auparavant, il l'achète à ce moment-là. On ne sait pas très bien d'ailleurs s'il y fait ménager des travaux dès cette période-là. Hein. Il en devient co-seigneur visiblement en 1377.
Co-seigneur?
Oui, co-seigneur. Il y a un autre co-seigneur qui est visiblement son gendre. Là, on est en 1382, donc 5 ans après, je ne suis pas sûr qu'il ait réalisé des travaux dans l'intervalle.
Et Éguesse, c'était un peu une ville un petit peu en retrait par rapport à Pont ou ça avait une importance?
C'est tout petit et Éguesse, hein, c'est un village. Hein, donc, et je pense que voilà, l'acquisition de terre, l'acquisition d'une seigneurie, ça marque un statut social en fait. Ça
oui.
marque un changement de statut social. Il est anobli par le roi hein, en 1377. Alors attention, anobli par le roi, en fait, c'est un processus administratif. C'est-à-dire qu'on achète en fait hein, une lettre d'anoblissement et il veut marquer finalement son nouveau statut social qui est de passer. Bah, de quelqu'un qui trafiquait le sel à quelqu'un qui devient un seigneur et un noble.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Tuchins s'en sont pris à lui?
Essentiellement à cause de la gabelle du sel.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, on a un processus un peu complexe qui fait que Charles V, donc le roi précédent, sur son lit de mort, avait aboli un certain nombre d'impôts parce qu'il était conscient que la pression fiscale était trop forte.
D'accord.
Et l'une des premières décisions de Charles VI, donc son successeur, a été de supprimer la gabelle du sel.
De supprimer.
De la supprimer.
Oui.
Et cette suppression de la gabelle du sel, elle a été publiée, c'est-à-dire qu'elle a été criée.
Oui.
Donc tout le monde a été au courant que la gabelle du sel avait été supprimée.
Donc tout le monde était content après.
Voilà.
Oui.
Sauf que quelques mois plus tard, les oncles du roi qui assurent le pouvoir à ce moment-là décident de rétablir la gabelle du sel.
Quel âge avait le roi?
Alors le roi était encore mineur, là vous me posez une colle, mais la réalité du pouvoir est encore assurée par ses oncles. Hein.
Ah.
Ça a été décidé par Charles V, hein, donc c'est une sorte de conseil de régence.
D'accord.
Et donc il y a rétablissement de la gabelle du sel.
Alors là...
Voilà. Et... Il y a eu un problème, visiblement, qui est un problème de publication des ordres royaux. C'est-à-dire qu'à l'époque médiévale, en fait, on est dans un système qui est complètement inverse par rapport au nôtre. C'est-à-dire que nous, on considère que nul n'est censé ignorer la loi. Bon. Ce qui implique que normalement, chaque citoyen doit aller éplucher le bulletin officiel pour voir l'ensemble des lois qui sont promulguées et qui sont adoptées.
Ouais, bon. J'aimerais bien savoir qui le fait.
Voilà. Personne ne le fait. Ouais. À l'époque médiévale, c'est le système complètement inverse. C'est-à-dire qu'une loi ou une ordonnance n'est pas considérée comme valide tant qu'elle n'a pas été mise à la disposition de la population par le biais d'une proclamation publique.
Avec tambour, un crieur.
Exactement, avec un crieur public, ce qu'on appelle un précon, dans des lieux qui sont des lieux précis, hein, qui sont prévus pour la publication des lois. Et la publication doit être faite dans la langue vernaculaire, hein, donc en l'occurrence en occitan, hein, dans ce coin-là. Bon. Il semblerait qu'on ait eu un problème dans la publication, notamment parce que évidemment, le crieur public, il s'expose dans ces cas-là.
Ah oui.
Donc, eh oui, on peut s'en prendre à lui.
Pour l'abolition, ça a dû être bien crié,
voilà,
pas de problème.
Voilà, exactement.
Mais le rétablissement, c'est une autre paire de manches.
Exactement. Et donc, la majeure partie de la population est persuadée, en fait, que la gabelle du sel a été supprimée. Et que donc, c'est ce Ponce-Burdon qui, en fait, a rétabli la gabelle du sel, mais à son propre profit.
Ça représentait combien, cette gabelle ?
Alors, la gabelle, c'est un impôt dont le taux peut être variable. Par exemple, on a une simple gabelle et puis on peut avoir une double gabelle. La simple gabelle, ça représente à peu près 12,5% hein, du prix du sel et 25% pour une double gabelle.
Et qui décide que ça soit une simple...
Ah, c'est le roi.
Donc, ouais. Il y a des années, c'est double gabelle, d'autres années,
ça,
c'est simple gabelle.
En fait, ça dépend un peu de ses besoins et ça dépend aussi ensuite du vote des États généraux. C'est-à-dire, est-ce que les États généraux acceptent la perception d'une simple gabelle, acceptent la perception d'une double gabelle, pour combien de temps, hein? La gabelle n'est pas non plus un impôt permanent, c'est-à-dire qu'elle peut être prélevée pour 6 mois, ensuite prorogée pour 6 mois et ainsi de suite. Hein?
Oui.
Oui.
Il faut suivre l'actualité, hein, c'est ça.
Il faut un peu suivre effectivement
Cet impôt, on le payait en sel ? Est-ce que c'est une part de... Si on veut acheter 1 kilo de sel, il faut en laisser 12,5
Non, ça augmente le prix du sel, en fait.
Ah, ok.
Voilà. Et on le paye au moment où, voilà, où on achète...
Comme la TVA, finalement.
Oui, tout à fait, oui.
D'accord. Ouais, ouais. Ok, ah oui, donc les gens du coin se sont dit, c'est ce pion, ce Burdon qui nous invente ça.
Exactement, ou qui continue à l'apercevoir à son propre profit. Et donc c'est aussi pour ça que son château est visé spécifiquement.
Et il avait des gens qui vivaient dans ce château, il n'était pas tout seul, j'imagine, non, il avait des gardes.
Alors, c'est là où on en revient au problème initial qui est comment ces gens-là ont fait pour s'emparer du château. Ponce-Burdon, il ne vit pas à Aigues. Il vit à Pont-Saint-Esprit, il a sa maison à Pont-Saint-Esprit, et au moment où la révolte des Tuchins éclate, hein, il trouve plus prudent de se réfugier de l'autre côté du Rhône, et on sait qu'il passe à Avignon.
C'était du pape.
Voilà, exactement, ce qui est sans doute le plus simple. Et au moment où les Tuchins vont s'emparer du château d'Aigues, en fait, à l'intérieur du château d'Aigues, ils sont 2 ou 3.
Donc, c'était pas trop compliqué de s'en emparer.
Et non, ils sont 2 ou 3, et ce sont pas des hommes d'armes. On sait que Ponce-Burdon, effectivement, se doute que les Tuchins vont aller s'emparer des Guèzes. Donc, à un moment, il y fait mettre 8 hommes d'armes. Mais il les laisse une semaine parce que ça lui coûte trop cher. Et ça, c'est l'un des problèmes que l'on voit sur l'ensemble des châteaux médiévaux pendant la guerre de Cent Ans. Aucun château médiéval n'a de garnison permanente, à l'exception de quelques châteaux royaux. Et même dans les châteaux royaux, les garnisons sont extrêmement limitées. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, 5, 6, peut-être une dizaine d'hommes d'armes, c'est le grand maximum. Parce qu'on ne peut pas laisser des hommes en garnison permanente dans un château, compte tenu des frais que ça coûte.
Oui, puis ils ont leur famille, ils ont leur terre, ils peuvent rester là tout le temps, percher là-haut.
Ah si, alors des hommes d'armes qui sont des soldats professionnels peuvent.
Oui.
Mais eux, il faut les payer.
Ben oui.
Voilà. Et la défense du château, elle repose ensuite tout simplement sur les villageois qui habitent à Aigues.
D'accord.
Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, on n'a pas de rempart à Aigues.
On garde nos auditeurs en haleine. On se donne rendez-vous demain, Vincent Chalet, pour continuer de parler de cette révolte des Tuchins et de cette prise du château d'Aigues en 1382. À demain.
À demain.